Ce passage de Matthieu 10 raconte l'envoi des disciples en mission. Il est vrai que depuis quelque temps, nous sommes plus renvoyés à nous-mêmes. Hein. Nous sommes là, confinés. Ça commence à bien faire pour nombre d'entre nous. Nous piaffons d'impatience, pour employer un terme animalier. Nous piaffons dans l'attente de la sortie. Une sortie que je vous propose d'envisager ce matin comme un envoi. Le chapitre 10 de Matthieu est entièrement consacré à la mission des 12 disciples. Ce qu'elle est, ce qu'elle n'est pas, et surtout ce qu'elle devient chemin faisant. Et une chose a attiré particulièrement mon attention dans cet enseignement de Jésus, ce sont les noms d'oiseaux, les noms d'animaux auxquels Jésus compare ses disciples. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez rusés comme des serpents et innocents ou simples ou candides ou purs, il y a plusieurs mots, comme des colombes. Les disciples donc se voyaient déjà partir la fleur au fusil en bon berger, évangéliser les brebis perdues d'Israël. Et les voici maintenant devenus eux-mêmes brebis au milieu des loups et serpents et colombes. Alors à nous qui piaffons d'impatience dans l'attente du déconfinement, je vous invite à prendre au sérieux ces noms d'oiseaux et d'animaux qui vont donner sens à la présence chrétienne dans le monde. Jésus compare les relations du chrétien avec ceux, avec les autres, avec ceux qui ne le sont pas. Il les compare aux relations que certains animaux développent entre eux. Premièrement, prenons la brebis, parce que nous sommes des brebis au milieu des loups. Nous sommes comparés à ces brebis au milieu des loups. Alors, dans le contexte de la persécution où se trouve l'Église de Palestine à qui Matthieu adresse son évangile, le message semble évident. Les chrétiens doivent s'attendre à des réactions violentes. Ils seront persécutés à cause de l'évangile qu'ils annoncent. Le système religieux qui est dominant, qui est au pouvoir, va les rejeter, eux et leur foi en le Christ ressuscité. Et l'Église persécutée aujourd'hui reçoit cette parole de Jésus. Elle la reçoit comme une annonce prophétique de ce qu'elle vit au quotidien. Et nous, qui ne le sommes pas, persécutés, eh bien nous devons soutenir l'Église dans la prière, l'Église persécutée, dans la prière et dans l'action. C'est une première chose, mais l'image de la brebis, des brebis au milieu des loups, peut être entendue autrement. La brebis, à bien y réfléchir, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est le repas du loup. Et vu sous cet angle, on peut comprendre que l'évangile peut être considéré comme une nourriture essentielle à la survie de notre monde, de notre société. Les chrétiens ne doivent pas se confiner, au service de leur affaire, l'Église, un service en vase clos. Ils ne doivent pas se laisser piéger par leurs propres besoins, dont la liste d'ailleurs est toujours plus exigeante. Elle finira par les épuiser. Cette course effrénée à la réponse aux besoins, sans jamais les rassasier d'ailleurs. Il nous faut donc être vigilants à ne pas devenir nous-mêmes les prédateurs du salut que Dieu adresse au monde et à le consommer pour nous dans notre coin. Il n'est pas dit dans l'évangile de Jean que Dieu a tant aimé l'Église qu'il lui a donné son Fils. Non, il est écrit que Dieu a tant aimé le monde. À l'image de Jésus, nous devons devenir nourriture pour le monde, brebis au milieu des loups. Les exemples sont nombreux. L'abolition de l'esclavage, la défense des droits civiques aux États-Unis avec le pasteur King, la fondation de la Croix-Rouge avec Henri Dunant, le soutien aux femmes victimes de violences par le docteur congolais Denis Mukwege, récent prix Nobel de la paix, sont le fait d'engagements de chrétiens, en l'occurrence ici protestants, mais on aurait pu citer des catholiques et des orthodoxes, contre la violence et contre l'injustice. Ils ont su, au risque de leur vie, poser des gestes et des paroles qui sont capables de nourrir le monde d'une espérance nouvelle. Nous pouvons, nous aussi, comme eux, devenir les envoyés nourriciers de Dieu auprès de ceux qui en ont besoin. Brebis au milieu de loups affamés de salut. Je voudrais passer maintenant aux deux autres comparaisons animalières de ce verset 16. Soyez donc rusés comme des serpents et purs comme des colombes. Jésus nous demande de devenir purs, simples. Littéralement, il faudrait traduire « sans mélange », comme des colombes. Bon, cela paraît assez naturel, assez évident. Les chrétiens ne sont pas des embrouilleurs. Ils sont du côté de la vérité et non pas du mensonge. Les chrétiens sont du côté de la pureté, pas de la manipulation des autres. Du côté de la simplicité, non pas du côté des attitudes et des paroles blessantes et trompeuses. Idéalement, tout au moins. La colombe représente la légèreté et la force du souffle de Dieu en nous. Elle incarne le désir de relations claires, de relations libératrices, des relations qui ne sont pas toxiques avec les autres. Comme la colombe de Noé qui quitte l'arche, elle représente l'espérance de la terre ferme, l'espérance du salut. C'est tout l'idéal chrétien qui se pose ou qui s'envole quelquefois malheureusement dans cette colombe. Mais quant à devenir rusé comme des serpents, alors là, ça devient plus compliqué parce que je ne vais pas vous l'apprendre, le serpent a mauvaise réputation dans la Bible. C'est l'animal par excellence dont on doit se méfier. La comparaison est choquante. Que veut dire, dans la bouche de Jésus, ce « soyez rusés comme des serpents » Eh bien, j'entends cette parole ainsi. Le chrétien, ce n'est pas seulement la gentille brebis qui se laisse tondre la laine sur le dos sans piper mot. Le chrétien n'est pas la pure colombe qui se laisse plumer sans un battement d'aile. Eh bien oui, c'est exactement cela, et ça fait d'ailleurs un bien fou d'entendre notre maître nous inviter à imiter la ruse du serpent. Jésus ne dit pas, pour reprendre des paroles célèbres de son enseignement, « Si quelqu'un prend ton manteau, qu'il prenne aussi ta tunique. » Ce n'est pas ça qui est écrit. Il dit « Donne-lui aussi ta tunique. » Si quelqu'un te frappe sur la joue gauche, laisse-toi frapper aussi sur la joue droite. Non, ce n'est pas ce qui est écrit. Tends-lui la joue. Le chrétien ne subit pas, il agit, il s'engage avec dignité, souvent contre la violence. Vivre en chrétien dans le monde, voilà, ce n'est pas jouer aux imbéciles de service, devenir la risée de tous en cherchant le martyr ou en maniant un discours complètement éthéré d'une spiritualité évaporée. Jésus, en acceptant de mourir sur la croix, dans l'évangile de Jean, dit ceci: « Ma vie, personne ne me la prend. C'est moi qui la donne. » Quelle force dans cette parole, quelle dignité! La mission de l'Église ne se déploie pas dans la mollesse, ni dans une douceur mièvre. L'Évangile nous invite au contraire à un engagement robuste, intelligent, actif. Le serpent excelle dans l'art du discernement et de l'analyse du terrain. Il fait preuve de bon sens, il échappe au piège tendu en se faufilant. La mission chrétienne consiste entre autres à faire du bien, on le sait. Mais quand j'y réfléchis un peu, faire du bien, c'est très compliqué. Il ne faut pas se laisser aller à ses bons sentiments, à sa générosité, sans garder une part d'analyse. Il faut prendre du recul, on va pas faire n'importe quoi. Il faut toujours interroger nos élans de générosité. Vont-ils finalement être un facteur de libération ou d'aliénation de l'autre ? Au nom de l'amour, vous savez, on peut faire aussi de grandes erreurs. Il nous est donc demandé d'avoir dans nos projets et dans nos relations de l'intelligence, de l'efficacité, de la performance, mais sans jamais perdre de vue le cœur de notre vocation, qui est celui d'aimer jusqu'à en perdre la vie s'il le faut. Nous ne sommes pas du monde, nous sommes dans le monde, colombe et serpent, tout à la fois. Nous sommes écartelés entre ces deux postures, ces deux missions, celle du serpent qui, au ras du sol, réfléchit, calcule, prévoit, anticipe, et celle de la colombe légère, facile, qui nous élève vers l'idéal évangélique de l'amour absolu. Deux positions inconciliables, mais que le chrétien, que l'Église, est appelé ici à tenir. Et les choses sont bien faites. Dans l'Église, il y a toujours un courant aérien, un courant spirituel, qui est tendu vers l'idéal évangélique, et il y a aussi toujours un courant terrestre, celui des frères et des sœurs pragmatiques, qui vous rappellent toujours aux réalités radépacrètes. Colombes et serpents ensemble ont tout à gagner à mutualiser leurs aptitudes dans l'Église. Je vais le dire avec les mots de Jacques Maritain. Il dit ceci: il faut avoir l'esprit dur et le cœur tendre. Et non pas l'inverse, le cœur dur et l'esprit tendre. La colombe seule ou le serpent seul, même très performants dans leur genre, ne produiront rien de valable, d'utile pour la mission. C'est dans l'acceptation de la complexité de sa propre vie et de celle des autres que le chrétien devient riche, fécond, responsable et surtout missionnaire. C'est très inconfortable comme situation, je l'entends, mais c'est bien à l'image de ce que le Seigneur Jésus a vécu. Lui aussi a été écartelé entre ces deux réalités. Il a été crucifié entre le vertical de sa relation avec le Père et l'horizontal des relations difficiles, des malentendus, et aussi de l'expression du bon sens terrestre chez lui et chez les autres. Alors, brebis, loup, serpent, colombe, ne vous cassez pas la tête, je ne pense pas qu'il faille choisir. Il faut se saisir de toute cette ménagerie que nous offre la parole ce matin de Jésus. Il faut nous saisir de la présence de Dieu pour combattre en nous le loup ou pour le nourrir, selon le sens que vous choisirez de lui donner. Notre vocation missionnaire est dans cet entrelacement inextricable de complexité. C'est un défi qui paraît insurmontable, mais voilà, dans ce texte que Julien nous a lu, une promesse nous est faite. Elle ne vous a pas échappé, c'est la présence de l'Esprit, l'Esprit du Père. Cette présence ne dépend pas de nos aptitudes à tenir nos rôles de brebis, de colombes, de serpents, à privilégier la foi ou la raison, l'action ou la prière. Non, l'Esprit du Père représente en nous cette altérité bénissante et nourrissante et inspirante. Par lui, nous voici habités d'une parole, d'un souffle nouveau qui nous qualifie pour une mission de première importance, celle d'annoncer l'amour de Dieu au monde. Laissons-nous envoyer, sœurs et frères, par cette parole, à quelques jours du déconfinement. Les jours viennent où la rencontre des gens sera à nouveau possible. Essayons de l'envisager sérieusement par l'Esprit. Amen.